Le Space Cast
avec JF Blais et Louis Gauvin.
Radio X.
Vous êtes à l'écoute du Spacecast sur les ondes de Choix Radio X. À 22h, le chum Max Lacasse, bien sûr, sera là pour prendre vos appels. Je ne sais pas c'est quoi la thématique encore. Et Max n'est pas encore arrivé. On va le voir rôder tranquillement, pas vite, là, autour du studio. Peut-être viendra-t-il planter le show un petit peu plus tard ce soir. Qui sait?
Peut-être.
Qu'il vienne pas faire chier mon entrevue avec Joe Cormier, par exemple.
On n'y amuse pas de ne pas se pointer le nez. Là. Ah ouais. S'il vient piéger Joe Cormier.
Ouais, c'est ça que j'allais dire. Qu'il vienne pas piéger Joe Cormier. Là.
Hey, bien Lacasse va passer au cash.
Ah ouais, exact. All right, hey, perdons pas davantage de temps. C'est jeudi. C'est mercredi. Et le mercredi, ben vous le savez, c'est l'heure de jaser avec my man, Dan Carosella.
Ah, s***. Here we go again.
Fatality. Jeux vidéo.
Nico, it's your cousin.
Culture geek.
Get in the boat, boy.
Avec Dan Carosella. La chronique gaming avec Dan Carosella.
Monsieur Carosella.
Oh, messieurs Gauvin et Blais, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir. Comment ça va?
Ça va mieux que les dernières semaines.
Ouais, moins de brou dans le toupette un peu?
Non, même pas. Ben non, plus fatigué, mais plus heureux. Parce que j'ai un sous-sol qui a enfin de l'allure. Donc, je vous parle dans un sous-sol peint et un peu aussi remodelé parce que ma blonde aime beaucoup le design intérieur. Donc, elle est allée chez IKEA.
OK, fait que c'est ça. Donc, c'est la mort de quoi que ce soit qui pourrait ressembler à une man cave, si je comprends bien.
Non. En fait, tu vois, là, en ce moment, il y a ma TV, mes trois consoles en dessous. J'ai même mon toutou. Tu sais, j'ai un toutou de bloc de Mario.
OK,
donc,
oui.
Qui trône en dessous. J'ai toute mon étagère vitrée avec mes statues de Mario. Puis là, je vais changer d'ordi. On va avoir des cadres aussi de films, dont mon film préféré qui est Back to the Future. Fait que non, ça va être une méchante man cave. Mais, tu sais, ma blonde, elle a ce talent-là qui est de visualiser. Tu sais, moi, là, tu me dis, rénove de quoi? Je suis comme, non, je veux pas le faire parce que je vois pas qu'est-ce que ça va donner.
Okay,
mais ouais. Ma blonde, elle est capable, elle, à l'avance, de dire, non, on va mettre ça là, ça. Fait qu'elle, quand elle rentre dans un Ikea, elle se porte un enfer, elle sait où est-ce qu'elle va mettre ça. Je suis pas allé avec. Pour la simple et bonne raison qu'elle s'est levée à 5h30 pour aller chez IKEA.
Hey man, IKEA, là, je sais pas, probablement qu'ils ont tous à peu près la même dimension, là, mais c'est interminable aller là.
Ben, c'est un labyrinthe, là, tu sais. Moi, je te dirais que ma qualité première, c'est la patience.
Ouais.
C'est chiant. Non, tu sais, mais tant mieux, écoute, elle, ça l'a fait triper, puis moi, ben, après ça, ben, je monte les meubles.
Ah, mais là, la vraie question qu'on a, c'est est-ce que nouvelle cave veut aussi dire pantalon?
Ouais, t'as-tu.
Absolument.
Y a-tu un garde-robe dans le sous-sol? Ah oui!
En fait, il y a une salle de lavage dans le sous-sol surtout. Fait que je n'ai plus aucune excuse. Désormais, je serai habillé.
Ah, tu vois, le Spacecast progresse. Là. C'est rendu que nos chroniqueurs peuvent se payer des pantalons.
Ah ouais, on vient de prendre un step.
Ouais.
Là.
Ah ouais, ça va bien.
Ah ouais, je dis pas que je m'habille chez Ernest, là, mais c'est ça.
J'aime que
au village des valeurs. Mais...
J'aime que ton top, c'est chez Ernest. Ça, c'est la phrase la plus j'écoute Occupation Double qu'on a prononcée dans le Spacecast ever. Là.
c'est vrai?
Ben, il me semble qu'ils sont tous habillés chez Hermès.
Ça paraît que t'as pas écouté Occupation Double depuis 2017, là, mais c'est correct.
Puis remonte encore, je pense. Écoute, non, mais ça, c'est une autre affaire. Je pense que la boutique la plus chic chez laquelle je me suis déjà habillé, c'est Moore's. Là. mais sinon, non, je suis pas bon là-dedans. Et puis ma blonde, ça fait 2 ans que je me suis pas acheté de linge. Genre, moi, là, j'ai des trous partout, je m'en fous. C'est ça. T'sais,
ah, je suis pareil.
Moi aussi.
Ouais, moi, avec.
Ça fait même 3 ans que j'ai pas. Depuis que je travaille à choix, j'ai pas acheté de linge.
Récemment, vous avez capoté, mais récemment. Récemment, j'ai jeté une paire de boxeurs que j'avais quand j'ai passé mon permis de conduire.
OK, je vais vous avouer que de quoi j'ai des boxeurs encore qui datent de mon adolescence. C'est même pas des jokes, des Fruit of the Loom.
Est-ce qu'ils sont...
Oh non!
Moi, ceux que j'ai jetés, là, je les considérais comme porte-bonheur. Est-ce que toi, ils portaient du bonheur ou ça n'a pas de rapport?
T'es battu quand les Canadiens sont en série, c'est ça la question.
Ah oui, définitivement, avec mon chandail officiel du CH, tout à fait. Mais je te dirais qu'il y avait de plus en plus de, comment on appelle ça, des bouches d'aération.
Oui, OK, ouais, je comprends, des trappes d'air, là, comme...
Oh oui, fait que, mais c'est pas des jokes, j'en ai encore aux grandes dames de ma conjointe, qui d'ailleurs, à un moment donné, a fini par m'avouer, parce que j'étais comme, qu'est-ce qu'ils sont passés où, mes boxers, tout.
Je pensais que t'as dit, ils sont passés où, mes gosses? Ah, OK, dans le trou que j'ai à côté de laine.
Ah non, ça va, c'est resté. Mais elle a fini par m'avouer qu'elle les jetait. Parce qu'elle n'était plus capable. C'est ça. Fait que bizarre, non, je ne suis pas bon pour m'habiller.
Bizarre, ça, une femme pas excitée par des boxeurs lousses, Fruit of the Loom. Étrange.
Ouais, c'est louche.
Oui, qui tient avec 2 élastiques, là, à un moment donné. Non, il y a des bouts, c'était réellement ça. Puis, tu sais, j'ai des chandails pour vrai, là. C'est honteux porter ça. Il y a tellement de trous après ces chandails-là, dont un, d'ailleurs, du Canadien. Okay. Mon ancien chandail de Kamala Harry. Tu vois plus tant Kamala Harry, tu vois le Harry.
Ah, moi, j'aime tellement ça, les gens qui gardent des vieux chandails. J'ai un de mes chums là, qui a encore son chandail de Costopoulos.
Oh, grand joueur des Canadiens, ça!
Oui, une légende des Canadiens.
Moi, je me demande pourquoi il avait acheté son chandail à la base.
Ah, ben, il a m'emmené là, d'un sport expert. Quand un joueur prend le bord, là, il te le donne quasiment le T-shirt. Là. Il te paye pour partir avec.
Okay.
Oui, exact. Je regrette, par contre, quand j'étais jeune, de ne pas m'avoir acheté un chandail Lilo de Line.
Ah, oh, tellement!
Ça, je le regrette. Ouais. Ça, pour vrai. Mais oui, c'est ça. Fait que, hey, on a encore fait une belle parenthèse.
Oui, puis aujourd'hui, là, j'ai commencé avec le thème gaming, mais je te fais une petite surprise. J'inverse nos sujets, puis j'aimerais ça qu'on commence avec la crimino. Je trouvais ça complètement capoté, man, l'histoire qui s'est passée en plein Starbucks aujourd'hui à Laval. Puis pour vrai, là, quand j'ai vu l'image, oui, évidemment, l'aspect criminologie, l'aspect caïd qui s'est fait descendre est intéressant, mais ma première pensée, là, quand j'ai vu les images surtout, ça a été le pauvre monde qui commande le café le matin, puis tu vois les gens là, se coucher rapidement sous les comptoirs, tout ça, je me dis, tu parles d'une scène terrifiante pour le pauvre monde qui veut juste comme, ben oui, un double espresso parce que je me suis levé trop vite un matin.
Tout à fait. Puis, en fait, pourquoi je voulais aborder ça, c'est que c'est loin d'être une première. Puis, j'ai d'ailleurs fait sortir certains cas qui se sont passés en plein jour dans des lieux publics, incluant des cafés. Donc, c'est pour ça aussi que je voulais vous en parler. Si vous savez pas de quoi qu'on parle, en fait, c'est que vers 10h35 ce matin, dans un Starbucks à côté de la 440 à Laval, il y a un certain Charam prendre ça. Oui, Chara Lambos.
Aussi appelé Bobby le Grec.
Bobby le Grec, ouais, ça c'est plus simple. Je suis désolé. Là. Chara Lambos Théologou. Donc, ça c'est son vrai nom, alias Bobby le Grec, comme tu l'as mentionné. Donc, c'était en fait un chef de gang. Ce gang-là est surnommé The Greeks. C'est les Grecs finalement. Donc, c'est un gang de rue. Mais ce qu'on a appris aussi, c'est que Théologou serait aussi associé aux Hells Angels. Donc, ce serait entre autres là, un exécutant d'assez haut rang.
Okay.
Donc, ce matin, vers 10h35, des individus qui font irruption dans ce Starbucks-là et se dirigent assez rapidement vers l'arrière du commerce.
Ils savent clairement il est assis où. Hein? Dans la vidéo, on le voit que les gars, ils n'hésitent pas une seconde, ils ne cherchent pas une seconde. Là.
Non, effectivement, ils ont fait du repérage et tout. Donc, c'était prémédité, c'était planifié. Donc, se dirige vers l'arrière. À cette table-là, il y a Théo Legault et deux autres personnes ouvrent le feu, abattent Théo Legault. Et ce qu'on sait, en fait, c'est que les deux autres individus auraient été atteints d'au moins une demi-douzaine de balles, mais ils seraient hors de danger. Donc, il n'y aurait pas de crainte pour leur vie.
Ouais,
mais c'est pas la... Je vous le dis, c'est loin d'être la première fois que ça arrive comme ça dans un lieu public où il y a beaucoup de monde en plein jour. Il y a encore ce mythe-là, on va dire, de dire ben, en plein jour, on n'est plus safe. On est plus en sécurité. C'est un mythe parce que on vit encore avec l'impression que c'est surtout le soir ou la nuit que les crimes se commettent parce qu'il fait noir, donc plus de chances de s'en sortir si jamais on se fait voir.
Mais question pour toi par rapport à ça.
Ouais.
Est-ce que c'est un mythe qui a été engendré parce qu'on est habitué à la culture des Hells? Il me semble que les Hells, c'était moins ça, l'histoire dont on se descend en plein Starbucks en plein jour à travers la population civile.
Ça cachait un peu.
Il me semble que c'était moins ça. Puis je suis pas en train de dire, ouais, s'il y avait du monde droite, c'était bien Hells, mais il me semble que c'était moins sans foi ni loi.
C'était pas droite, mais c'était moins croche.
Ouais, c'est ça.
Ouais, ben en fait, oui, parce que le créneau des gangs de rue, ça a toujours été ça, sans foi ni loi. Les Hells avaient, puis ont toujours d'ailleurs leur propre code de conduite. Même chose au niveau de la mafia. Par contre, au niveau des motards, ce qu'il faut pas oublier, c'était peut-être vrai avant, jusqu'à la guerre des motards. Durant la guerre des motards, c'était épouvantable. J'étais un adolescent à ce moment-là, puis je me rappelle la terreur qui régnait dans les rues parce qu'il y avait des gens qui se faisaient abattre en plein jour. D'ailleurs, ça, c'est un de mes exemples, en fait, que j'ai relevé. Les Hells ont commis beaucoup, beaucoup de meurtres en plein jour, incluant les deux gardiens de prison qui étaient Diane Lavigne et Pierre Rondeau.
Oui.
Rappelez-vous, c'était en fin d'après-midi, donc c'était même pas le soir, puis c'était en pleine autoroute. Ça a créé vraiment une sorte de psychose au sein de la population parce que les gens avaient peur de prendre la route en se disant, Christy, on va-tu se faire tirer alors qu'on est au volant de notre voiture. Rappelez-vous aussi, c'est pas quelqu'un du crime organisé là, qui s'est fait tirer, mais Michel Auger avait été la cible d'une tentative de meurtre en plein stationnement du Journal de Montréal. Donc, c'était en plein jour.
Il s'était fait grêler de balles ou bien il avait essayé de booby-trap son char? Je me souviens plus.
Non, il s'était fait cribler de balles, lui.
Ah oui, OK. Okay.
Ouais, donc, il avait été tiré. Il a... Par chance, puis miraculeusement, il s'en est sorti, mais ça avait été en plein jour, ça avait créé une onde de choc. Si on se rapporte plus à des gens du crime organisé ou encore des criminels qui ont été tirés, il y a entre autres un des gardes du corps de Ducarme Joseph, qui était un ancien chef de gang qui lui-même a été assassiné dans le quartier Saint-Michel, mais ça, c'était un vendredi soir. Mais un des gardes du corps de Ducarme Joseph, alors qu'il était avec Ducarme Joseph, s'est fait tirer en plein jour dans le Vieux-Montréal alors qu'il sortait d'une boutique de linge. Il y a aussi un haut placé des Hells, je me rappelle de ça, il avait été tiré en plein centre commercial, donc dans le fond, lui, il revenait à son char et il a été criblé de balles. Rappelez-vous aussi, il y a quelques années, Scopa, dans un hôtel Sheraton de Laval.
Okay.
Il était là, il était avec sa famille, il s'était bondé de clients, Salvatore Scopa était attablé et à un moment donné, des individus font irruption en plein Sheraton. Le tir, ça a été la cohue là-dedans, ça a créé des traumatismes épouvantables.
Ça, ou juste, il y a de ça quelques mois, souviens-toi aussi, le espèce de mafiosi là, qui est allé se réfugier, tu sais, ils l'ont manqué lui, là, mais il est allé se réfugier dans un genre de centre mortuaire à la course, tu te souviens?
Oui, ça, c'est Leonardo Rizzuto.
Oui, oui.
Donc, dans le fond, lui, effectivement, donc en plein jour, justement, des individus avaient essayé de l'assassiner, puis il s'était réfugié. Si je me trompe pas, c'était un Alfred Dallaire à Laval, justement. Parce que c'est ça, tu sais, son char, tu sais, il avait saisi son char, on voyait les balles et tout. D'ailleurs, tu parles de la mafia, Balzato, je pense qu'il s'appelait, le gars, c'était quelqu'un qui faisait beaucoup, beaucoup d'extorsions. Il menaçait beaucoup de gens. D'ailleurs, à un moment donné, il avait essayé d'aller à Québec. Puis c'était, je pense, à ce moment-là, c'était la bombe qui était là, puis il avait dit, il n'est pas le bienvenu ici. Puis...
Oui, oui, OK, dans le temps de la... OK, c'est ce monsieur-là qui avait peut-être proposé ou qui était dans la discussion pour acheter le Concorde.
Ah, oui. Oui, si je me trompe pas, oui, c'est, je pense que c'est lui. Oui,
la bombe, à l'époque, avait levé le voile, ou du moins avait allégué que le crime organisé rôdait autour du processus de vente du Concorde.
Oui, ben lui, cet individu-là était connu dans la région de Montréal pour avoir fait énormément de menaces, entre autres au niveau des pizzerias. Donc, c'était quelqu'un là qui était violent aussi. Puis, il avait essayé un petit peu d'aller tâter le terrain du côté de Québec. Puis, c'était une persona non grata là, à Québec. Finalement, il n'avait pas réussi, mais lui... Il s'était fait prendre dans un guet-apens à la sortie d'un gym. Ça fait un bout. Lui, on disait qu'il vivait sur du temps emprunté. Là, on savait qu'il avait un contrat sur sa tête. Et à la sortie d'un gym, bang, il se fait tirer comme ça devant plein de clients de ce fameux gym-là. Mais si vous voulez même remonter beaucoup, beaucoup plus loin, à la fin des années 70, un certain Paolo Violi, qui était en fait pressenti pour être le prochain parrain de la mafia, avait été assassiné et ça avait été extrêmement violent comme assassinat. Je pense qu'il avait été tiré à coups de 12 là, dans un bar à Saint-Léonard. Donc, c'était en fait son QG. Des individus avaient fait éruption là-dedans avec des fusils de gros calibre et il avait tiré devant des clients. Puis d'ailleurs, si vous voulez, tu sais, c'est pas des affaires que je vous recommande nécessairement de voir là, mais moi j'ai plusieurs livres sur la criminalité à la maison et entre autres on parle de ce meurtre-là parce que ça avait secoué le monde de la mafia et tu vois là Violi là qui est dans une mort de sang là sur le sol là, couché à plat ventre parce que vraiment il avait été criblé de balles là. Donc c'est pour vous dire que ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est loin d'être un cas unique, mais par contre, comme tu l'as mentionné là en début de chronique, c'est sûr qu'il faut penser aux pauvres gens qui étaient là, là de façon innocente parce qu'ils voulaient juste prendre leur café, tu sais.
Ben oui, exact. Et hey, puis, je reviens justement à Bobby. Le Bobby, lui, est-ce que... parce que je connais pas les méthodes. Est-ce que tu as l'impression qu'il était surveillé par ces gars-là puis à un certain moment donné, boum, ils ont senti qu'ils ont eu la brèche pour aller frapper ou bien ils ont reçu un call rapido comme « Hey, il est là, let's go débarquer » puis ils ont raidé à la place. Selon toi, c'est quelle la théorie qui fait le plus de sens?
Les deux sont possibles.
Okay.
Pour vrai, les deux sont très possibles. Si je te dirais que j'ai plus le feeling que lui a été traqué, donc qu'ils l'ont suivi, puis à un certain moment donné, tu sais le temps qu'ils rentrent, le temps qu'ils se mettent à l'aise et tout, ben c'est là qu'ils ont décidé, OK, c'est là qu'on rentre. J'ai plus ce feeling-là, mais ça se pourrait très bien que, en fait, les gars qui ont fait ça aient simplement reçu un call, OK, il est à telle place, vous avez telle fenêtre de temps pour vous exécuter. Mais moi, j'ai plus le feeling qu'effectivement, ils l'ont suivi. Ils savaient très bien, probablement que ça faisait un bout aussi qu'ils étaient suivis, probablement qu'ils savaient ses allées et venues, probablement que c'était... peut-être même un habitué de ce commerce-là, puis qui ont dit, ben ça va être le 1er octobre qu'on va le passer.
Hmm. All right. Hey, on tombe en mode gaming un peu plus léger.
Ouais.
Je commence avec ça. Ça faisait pas partie de tes sujets, mais je veux t'entendre pareil sur la vente de EA. C'est quand même majeur. Est-ce que tu penses que ça va amener des transformations en tant que telle chez EA qui a subi quand même certaines critiques au courant des dernières années. Là. Tout n'est pas rose chez EA Sports. Ils produisent quand même du... pas EA Sports, mais EA tout court. Ils produisent des jeux qui se veulent du triple A, mais je me souviens pas non plus un genre de coup de circuit là, récent.
Ben, si je regarde, tu sais, à l'exception des jeux de sport, parce que effectivement, sont très très connus pour leur branche EA Sports, je pourrais dire les deux derniers Jedi Fallen Order puis Jedi Survivor.
Ouais.
Je pense que ça a été leur dernier. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, tu sais, ça me fait penser que même du côté de Disney, à un moment donné, on avait pensé tirer à plug au niveau d'Electronic Arts par rapport à la franchise Star Wars, là, parce qu'on était tannés, on trouvait que les jeux étaient pas à la hauteur jusqu'au Jedi. Là. Ça, je pense que ça a redoré le blason. Maintenant, c'est sûr que là, là, IE vient d'être acheté, passe au niveau d'un consortium privé. Je ne sais pas si vous avez vu le montant de la transaction. Là.
Ah oui, c'est 55 milliards.
Milliards, c'est beaucoup de bidou.
C'est du monde avec beaucoup de bidou aussi. Là. C'est le prince Ben Salman qui a mis de l'argent là-dedans aussi. Fait que, c'est du monde là, que, oui, c'est beaucoup d'argent, mais ils ont pas vu, dans le compte chèque, là, ils n'ont pas vu de drop. Là.
Non. Puis, tu sais, là-dedans aussi, il y a le gendre de Donald Trump. Là,
oui, Kushner, oui.
Donc, tu sais, c'est des gens qui ont énormément d'argent. Je suis pas mal convaincu qu'à l'interne, il y a des choses qui vont changer du côté de Electronic Arts. Est-ce que ça va être pour le mieux du côté du public, donc de nous autres, les joueurs? Ça, j'en suis pas convaincu. Mais c'est sûr que, tu sais, quand tu passes comme ça à un groupe d'investissement privé, regardez ce qui s'est passé, entre autres, là, du côté de, comment il s'appelle, le nom m'échappe, là, je le lis, là, puis je suis pas capable de le sortir. C'est un gros consortium là, qui a acheté un paquet de studios, des studios de Square Enix.
Bethesda, là, pis ça?
Non, ça appartient à Microsoft, mais non, c'est... puis là, je suis désolé, le nom m'échappe, là, mais en fait, ce qu'on a vu suite à ça, parce que c'est un très, très gros consortium, c'est un paquet de fermetures de studios. Okay. Donc, quand ça passe comme ça à des mains privées, à des consortiums, généralement, là, il y a des pertes d'emplois. Puis ce qu'il faut dire aussi, c'est que quand ça passe comme ça dans d'autres mains, généralement, ce qu'ils vont regarder, là, c'est au niveau de l'organigramme de l'organisation. Puis des fois, ce qu'ils se rendent compte, c'est qu'il y a des doublons là-dedans. Donc, des fois, ils vont aller couper là-dedans, ils vont aller couper dans le gras réellement, là, parce que des fois, tu as deux départements de PR. Bien là, on va en faire disparaître un. C'est des trucs comme ça qui peuvent arriver. Là, ce qui va se passer aussi, c'est que là, tu tombes vraiment dans le jeu. Ben, en fait, tu tombes dans des mains de gens d'affaires. Là, eux autres, là, ils n'auront pas nécessairement de patience. Puis s'ils voient qu'il y a des filiales d'Electronic Arts qui fonctionnent moins bien, je ne m'étonnerais pas que le coup près va arriver beaucoup plus vite qu'on pense.
Je ne pense pas que le prince Ben Salman est en mode « Ah, l'or pour l'or ». Je ne pense pas que c'est tant... Ça...
Non. Lui, il est pour l'art pour le bidou. Je peux te le garantir. Fait que moi, je m'attends à des pertes d'emploi, puis je m'attends même à ce qu'il y ait certaines divisions d'Electronic Arts qui vont changer. Tu sais, si tu me dis, c'est là-dessus qu'on va voir les changements du côté des joueurs, oui, ça se peut. Puis il va falloir voir aussi si ces nouveaux propriétaires-là vont autant vouloir investir du côté de l'indépendant, parce que Electronic Arts a son initiative, sa filiale qui s'appelle EA Originals, et ça visait justement à encourager des studios indépendants. Okay. Est-ce qu'on va toujours vouloir pousser là-dedans ou on va mettre la hache? Pour le moment, les EA Originals, tu sais, si je vous parle de ça puis je vous demande de me nommer un jeu, pas sûr vous allez m'en sortir un. Là.
Effectivement, moi je suis pas capable.
C'est ça.
Yes. Hey Dan, c'est le moment. J'ai très très hâte. Tu peux enfin nous en parler, ton embargo est levé. Oui. T'as testé Ghost of Yotei et oui. Je suis très curieux parce que moi, Ghost of Tsushima, le premier volet, si on veut, c'est un des jeux de ma vie carrément. Là. À la hauteur, je te dirais, de Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. Puis tu sais à quel point j'ai aimé ces jeux-là. Fait que je suis attentif vraiment à ce que tu vas me raconter ce soir. Comment t'as trouvé ça, ton expérience dans Ghost of Yotei? Les critiques sont assez... positive quand on fait le tour d'Internet, mais moi, c'est rien en bas des Dan Award.
Arrête-moi ça. Je vais le dire de même, là, puis je le sais. Là, le jeu sort demain, OK? Puis il y en a qui vont vouloir m'arracher la tête avec ce que je vais dire. Ça se peut que vous adoriez ça. Ça n'a pas été mon cas. Malheureusement.
OK, pour quelle raison? Non. Qu'est-ce qui... La première... Tu sais, tu viens de dire ça, la première affaire que tu as en tête quand tu penses à cette affirmation-là, c'est quoi? C'est quoi qui bug?
Je m'y attendais de ne pas avoir l'effet de surprise. Ça, je m'y attendais, mais ça m'a quand même frappé. C'est tellement similaire à Ghost of Tsushima que j'ai eu l'impression un peu de retrouver le même jeu dans une autre ambiance, c'est-à-dire au niveau du Mont Yotei. Mais pour le reste, c'est pas mal la même chose. Ce qui m'a beaucoup, beaucoup déçu, c'est le manque de surprise dans le jeu, notamment au niveau scénaristique. Tu commences le jeu, premièrement, c'est très lent, là. C'est très, très lent.
Okay.
Surtout au début, là. Attachez votre sucre, là, je me sens emmerdé. Solide, là, au début, là. Je trouvais que c'était lent, je trouvais... sais, je comprends, c'est pour un peu valoriser la culture japonaise, la beauté de l'art japonais. Mais à un moment donné, il faut que ça s'embraye un petit peu. Puis je trouvais que ça c'était long là, avant de prendre son air d'aller. Et là, je commence le jeu. Et c'est une quête de vengeance. On le sait, dans le cas de Jin Sakai aussi, c'était ça. C'était l'île de Tsushima qui se faisait envahir. Puis là, toi, tu devais repousser les envahisseurs. Là, c'est une quête un peu plus personnelle parce que c'est la famille de Atsu qui est la nouvelle héroïne. Puis je m'en fous que ça soit une femme ou un homme. Là j'ai vu plein de commentaires mais hyper misogynes. Ça n'a aucune importance. Oh, on s'en fout totalement. Je veux dire, pour moi, là, ça ne fait aucune différence. Là où j'ai eu un bug, c'est que je me disais, OK, ça va être plus que ça. À un moment donné, m'en finir par être surpris. Tu sais, je me rappelle, entre autres, dans Ghost of Tsushima, quand tu avais le clan des... tu sais, là, c'était quoi? Les chapeaux de paille, je pense.
Est-ce que les cueilleurs de riz ou quelque chose du genre? Je me suis
fini par... Tu finis par te faire trahir à un moment donné, tu sais, puis c'est comme, OK, wow, tu sais, le conflit prend une autre dimension. Mais dans Ghost of Yote, ça arrive pas. Il y a rien de ça. Il y a pas de rebondissement. C'est une quête de vengeance. T'as des cibles un peu à la Assassin's Creed, là. Donc
répétitif. Début,
ben, non, c'est plus que, tu sais, dans les Assassin's Creed, là, t'as comme un tableau de chasse. Donc, dans Ghost of Yote, t'as à peu près 7 ou 8 cibles, là, quelque chose comme ça. Puis là, au début, tu as un nouveau mini-jeu qui te demande d'utiliser ton pavé tactile. Puis ça te permet de faire de la calligraphie japonaise. Ouais. C'est cute, là, mais ça ne sert pas à grand-chose.
Okay,
mais
là, rien à foutre, là.
Comme non, lire les poèmes, là, je me souviens plus des haïkus dans le
oui. Ouais, tu sais, ça brisait le rythme un peu. Il y en a qui ont dit, mon Dieu, mais c'est hyper poétique. Ouais, mais c'était plate.
C'est un peu inutile. Ça, puis flatter les renards, c'est un peu inutile.
Ben, attends, dans Ghost of Yote, c'est pas des renards que tu suis, c'est des oiseaux. Okay. Fait que, c'est pour te dire, tu sais, on a repris les mêmes affaires de Ghost of Tsushima, on les a modifiées un petit peu, tu sais, mais c'est des changements comme ceux-là. Parce que pour le reste, ça demeure pas mal les mêmes choses à faire, c'est les mêmes mécaniques, puis je reviens au niveau scénaristique. Tu sais, au départ, là, t'as des cibles, puis c'est des cibles, on va dire, entre guillemets, assez badass. Tu dis, OK, ça va être des conflits vraiment, là, à la limite, épique qu'on va avoir. Puis là, tu commences un combat contre une des cibles. Moi, je me suis dit, OK, ça ne peut pas qu'être ça pour la cible. Je me dis, il va y avoir autre chose. Ben non, tu la tues puis tu passes à la prochaine. Je trouve que du côté de Sucker Punch, il y a quelque chose qui manque au niveau de l'effet de surprise, au niveau des rebondissements, au niveau de la profondeur scénaristique. C'est très de base, je vous dirais. Puis ça s'en va très rarement, là, à part là, vers la fin, là, tu as certains petits rebondissements, mais que tu vois venir vraiment à l'avance.
Ben là, ce que j'entends, là, c'est qu'ils n'ont pas. Parce que je me dis, OK, es-tu en train de me dire qu'ils ont été conservateurs? Non. Là, selon ce que je comprends de ce que tu me dis, ils n'ont pas été conservateurs, ils ont été prévisibles. Ça, c'est épouvantable.
Oui, attendez-vous pas à tomber en bas de votre chaise au niveau, entre autres, du scénario. Puis je vais vous le dire, Atsu est un personnage qui est beaucoup, beaucoup moins intéressant que Jin Sakai. À un moment donné, elle finissait par me taper ses nerfs. Je comprends, là, écoute, ma famille aurait été massacrée que moi avec, j'aurais probablement juste la vengeance dans la tête. Mais ça devient redondant dans le cadre d'un jeu vidéo qui dure au moins 40 à 50 heures. C'est juste ça. C'est juste la vengeance qui revient. Je trouve qu'il y a un manque vraiment au niveau scénaristique. C'est pas d'être conservateur, comme tu dis, c'est d'être prévisible. Et il y a absolument rien qui m'a surpris au niveau du scénario. Même chose au niveau des quêtes. L'affaire que j'ai quand même plus aimé que dans Ghost of Tsushima, c'est le fait que tu peux avoir plus de conversations avec un peu n'importe qui que tu croises. Donc, entre autres, tu as plus de quêtes qui vont être offertes par un peu, tu sais, quand tu te promènes dans les champs et tout. J'ai aussi aimé le fait, puis ça, c'était quand même présent dans Ghost of Tsushima, tu sais, le fait que tu n'aies pas nécessairement de repères. Il faut vraiment que tu prennes le temps d'observer pour voir des points d'intérêt. Encore là, attendez-vous pas à être surpris parce que y en a beaucoup qui ressemblent à ce qui était présent dans Ghost of Tsushima. C'est pour ça que je vous dis que j'ai vu un paquet de 9, 10 sur 10, puis j'ai comme pas compris.
Mais as-tu l'impression que c'est Sucker Punch qui font ça, ouais? Que ouais. Sucker Punch sont un peu frappés par, moi, ce que j'appelle le phénomène Hollywood. Je m'explique. Ouais. Hollywood, mettons, rapide et dangereux, là, ils en ont fait un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6, parce qu'ils voient qu'ils ont une recette qui marche, puis au lieu de tenter de faire de quoi de différent, ben ils savent que ça va marcher, fait qu'ils refont la même affaire over and over again.
Ouais.
C'est ça possible. Qui se passe?
C'est possible. Puis, tu sais, en fait, il y a plusieurs possibilités. Ça se peut aussi que ça vienne de Sony, tu sais, de dire, tu sais, les jeux vidéo coûtent extrêmement cher à produire, surtout des AAA, donc on veut pas prendre tant de risques que ça. Là. On veut pas nécessairement refaire une recette qui a fonctionné. Fait que ça se peut aussi que ça soit ça. Maintenant, est-ce que ça se peut que dans la vision de Sucker Punch, on soit dit, nous, on va faire une franchise Ghost et on n'a pas nécessairement envie de refaire à chaque fois une nouvelle recette. On veut vraiment une franchise avec le même, en fait, la même, je vais dire...
Une continuité.
La même continuité, la même ligne. Là. Ça aussi, c'est possible. Mais pour vrai, moi, Ghost of Yote, c'est le projet de Sucker Punch qui, jusqu'à aujourd'hui, m'a le plus déçu. Puis tu sais, ils en ont sorti Sucker Punch, qu'on pense au Sly Cooper, qu'on pense au Infamous. Mais je m'attendais à plus, je vais dire, de Ghost of Yote. Puis tu sais, Jeff, ça a été un jeu marquant pour toi. Et je pense que c'est ça aussi qui va te décevoir parce que t'as tellement aimé Ghost of Tsushima que t'attends tellement que Ghost of Yote va avoir le même impact. Puis quand tu vas te retrouver devant ce jeu-là, tu vas faire « Ah, ben c'est ça. » C'est pas un mauvais jeu. Je vous le dis, c'est pas un mauvais jeu. C'est un jeu qui est très bien fait, qui est magnifique visuellement. Là, c'est époustouflant.
Mais le Ghost of Tsushima était magnifique aussi. Est-ce qu'on a une coche de plus étant donné maintenant qu'on est sur une nouvelle console?
Ben, c'est sûr que comparativement à la version Director's Cut de Ghost of Tsushima, je suis pas tombé sur le cul. Mais en même temps, c'est très, 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 très beau. Là. Je veux dire, j'ai absolument rien à redire. C'est pas un jeu, par contre, qui m'a totalement ébloui. Là,
fait que dans le fond, c'est juste comme un gros, gros, gros DLC.
Genre, ouais, c'est ça. Avec des nouveaux skins, quasiment. Mais la question qui tue, Dan, 89, 99, oui ou non?
Moi, si j'avais payé ça, je vous le dis, j'aurais regretté. C'est plate, là. Mais puis, je vous le dis, il y en a qui vont m'arracher la tête parce qu'ils vont dire « Voyons, Dan, t'as pas compris le jeu, puis il y a des nouvelles armes, il y a plus de possibilités. » C'est vrai, mais c'est ça aussi qu'on attend, entre autres, d'un DLC. Tu sais. Puis là, tu parles de 90 plus taxes. Moi, je trouve que c'est cher payé pour ce qu'on nous offre, qui est, c'est-à-dire un Ghost of Tsushima dans un autre environnement.
Un autre
fait que, ouais, j'ai été déçu. Je dois le dire. Puis moi, si vous m'aviez demandé une note, ça aurait plus tourné autour du 7,5 sur 10. Que
OK.
Ben, c'est pas une honte non plus.
Non,
mais
c'est ça. Ce que j'en comprends, là, c'est que je vais m'installer devant ce jeu-là, je vais passer un bon moment, je tomberai pas sur le cul, mais surtout, non. Je le ramasserai pas demain parce que, avec ce que tu me dis, à la date où il sort, d'après moi, au Black Friday, il va être en rabais, clin d'œil.
C'est possible. Puis, tu sais, moi, je vous le dis, quand j'ai vu les notes, parce que j'attendais les notes des critiques, voir un petit peu de quoi ça allait avoir l'air, puis j'ai fait, OK, c'est peut-être moi qui n'ai rien compris. Mais, tu sais, mon collègue Youssef l'a testé aussi pour Branchez-vous et M2 Gaming. C'est lui qui s'en est occupé pour les deux plateformes. Puis, il était un peu de mon avis. Youssef, il a mis un 8,5 sur 10, puis je peux comprendre pourquoi. Mais durant nos tests respectifs, tu sais, on se parlait, lui puis moi, puis pendant un bon bout, on s'est dit, Christy, on s'emmerde. c'est pour vous aider. Fait que c'est pas un mauvais jeu. Je vous le dis tout de suite, c'est pas un mauvais jeu. Mais c'est pas un jeu aussi grandiose que certains autres projets de Sucker Punch.
OK. Hey, en terminant, il nous reste à peu près un genre de 2-3 minutes. Peut-être faire le tour de ce qui va sortir au mois d'octobre. C'est un gros mois d'octobre, un beau mois d'octobre qui s'en vient. Dans mon cas, puis dans le cas d'à peu près tout le monde que je côtoie qui game, le 10 est entouré dans le calendrier avec Battlefield 6. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant à se mettre sous la dent ce mois-ci?
Je plains sincèrement Namco qui va lancer lancer Little Nightmares 3 le même jour que Battlefield 6.
Ouais.
Ça va passer dans le beurre. Donc, mais oui, comme tu le dis, Battlefield 6, ça risque d'être le jeu qui va retenir l'attention jusqu'à la sortie de Black Ops 7.
Ouais.
Donc, il est prévu un petit peu plus tard. Pour les amateurs de Pokémon, le 16 octobre, Pokémon Legends ZE va sortir, très attendu.
Est-ce que c'est une nouveauté, ça, ou c'est un remake de quelque chose?
Non, c'est une nouveauté. Donc, okay. C'est une nouveauté dans... Tu sais, on a déjà eu un Pokémon Legends là, avec Arceus.
Oui, OK, oui.
Que j'ai adoré. Donc, j'ai hâte de voir au niveau de ZE. Beaucoup plus de stock. Puis, tu sais, maintenant, c'est la Switch 2. Donc, potentiellement aussi un jeu qui va mieux rouler. Si vous êtes amateur de jeux d'action, moi, c'est probablement le jeu que j'attends le plus ce mois-ci, Ninja Gaiden 4. Donc, le 21 octobre, ça va... pisser le sang, ce jeu-là, mes amis.
Est-ce que c'est un jeu avec une esthétique rétro comme les Ninja Gaiden du temps ou bien ils ont...
Non.
Ah oui, OK.
Non, c'est aventure 3D, là, vraiment dans la poursuite. Tu sais, le dernier Ninja Gaiden... Hein, excuse?
Ça a l'air hot.
Ah, c'était que... Alors, moi je vais triper là, là-dessus, à découper des têtes puis des bras, puis à qui mieux. Donc,
c'est la première fois qu'on sort de l'esthétique pixel art pour aller dans en Ninja Gaiden? Moi, j'ai toujours eu en tête que c'était très pixel art. Là.
Non, dans le fond, Ninja Gaiden, c'est la suite d'une série qui a commencé avec Ninja Gaiden sur Xbox, qui a été relancée en Ninja Gaiden Black. Après ça, tu as Ninja Gaiden 2, Ninja Gaiden 3, Razor's Edge, puis là, tu as Ninja Gaiden 4. Donc, c'est vraiment dans cette lignée-là.
OK.
Ensuite de ça, ça, c'est un jeu que je vais tester, c'est confirmé pour M2 Gaming, Painkiller. Espèce de jeu de tir à première personne où tu t'en vas en enfer.
Okay. Donc, c'est quoi, tu t'en vas descendre Saddam Hussein puis Adolf Hitler en enfer? Qu'est-ce qui se passe dans
non,
ce jeu-là?
Satan. Tu t'en vas voir Satan. Fait que, Painkiller, là, c'est déjà paru là, quand j'étais jeune puis j'avais tellement trippé. C'est hyper sanglant, c'est hyper violent, mais c'est un genre de Doom, là, si tu veux.
Okay.
En moins bon, là, mais quand même, c'est un gros défouloir. Je regarde vite. Il va y avoir The Outer Worlds 2 le 29 octobre.
Okay.
Donc, c'est un jeu qui vient de Microsoft, qui vient aussi d'Obsidian.
Le premier avait eu quand même un certain succès, hein, il me semble.
Oui, il avait eu un bon succès. Tu sais, un espèce de jeu première personne, RPG, avec des éléments style, tu sais, rétro Fallout, là.
Ouais.
Donc, avec un humour très, très absurde, là. J'avais pas haï le premier The Outer Worlds. J'avais trouvé ça vraiment intéressant. Puis le 2 a vraiment de l'air à étendre les possibilités. Et sinon, le petit dernier, si jamais vous êtes un amateur des vieux Dragon Quest, le 1 et le 2 vont être refaits en version, tu sais, HD 2D, là, comme ils ont refait, entre autres, dans le style un peu de Octopath Traveler. Là. C'est vraiment magnifique comme style. Donc, les deux premiers Dragon Quest vont être disponibles le 30 octobre en version là, HD 2D. Donc, sautez là-dessus si vous aimez le genre.
All right. Hey, merci beaucoup, Dan. Puis d'ailleurs, on me texte que demain, il y aura la bêta de Black Ops 7 qui va être disponible pour ceux qui ça intéresse. Là, ceux qui ça leur tente de courir ses murs, puis voler, puis pitcher des lasers, là, ben bêta demain pour Black Ops Call Duty Black Ops 7.
Hey, c'est plate, hein, parce que je vais juste terminer là-dessus, OK? Là, allez voir de quoi ça a l'air les nouveaux prix du Xbox Game Pass et dites-vous que ça n'a pas fait des heureux parce que le site de Microsoft a planté cet après-midi.
Ah ouais, OK.
Tellement les gens sont désabonnés.
Oh my God! C'est une grosse montée de prix?
Écoute, pour le palier Ultimate, là, on parle d'une augmentation de 50%. Fait que c'est 34$. Calvin, par mois.
OK. Tabarouette.
Commence à venir cher.
Ça commence à devenir cher. T'es mieux de gamer d'aplomb pour que ça se rentabilise, cette affaire-là.
Oui, exactement.
All right, Danaï, un gros merci encore une fois. Puis on se repogne la semaine prochaine, mon vieux.
Yes, avec plaisir. Bye.
Salut, ma man, Dan Carosella, lui-même. De l'autre côté de la pause, on y est. J'avale de travers. Je suis un peu nerveux. On jase avec Joe Cormier. Jonathan Moreau-Cormier, en fait. On vient, ça sera pas long.
Le Space Cast
avec JF Blais et Louis Gauvin.
Radio X.